BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
La pollution plastique, on est au cœur de l'actualité. Alors bien entendu, si vous voyagez, vous le voyez beaucoup dans beaucoup de pays, et notamment en Afrique. Mais nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la deuxième session de discussion autour de la création d'un traité international contre la pollution plastique qui sera soutenu par l'Assemblée nationale des Nations Unies pour l'environnement. Ça devrait être, on devrait avoir des premières mesures en 2024. Et c'est un texte qui va contraindre les États justement, ainsi que les entreprises. Autour de cette pollution plastique. On va en parler avec nos invités. Sabine Roux-de-Bézieux, bonjour.
Bonjour.
Sabine, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Fondation de la mer, co-rapporteuse sur le traité contre la pollution plastique auprès du Conseil économique, social et environnemental. Et Lionel Arré, bonjour Lionel.
Bonjour.
Directeur associé senior au BCG, le BCG qui est notre partenaire de ces sessions BFM Stratégie. On va parler de quoi là dans ce traité? Parce qu'une fois qu'on a dit on va traiter la pollution plastique, mais concrètement, je dis, il va y avoir des exigences autour des États, des entreprises. Dites-nous un peu. Ça, Sabine.
Alors d'abord, on s'est intéressé à la pollution plastique à cause des océans. Oui. Parce que 80% de la pollution qu'on retrouve dans l'océan, c'est du plastique. On s'est aussi intéressé parce que le plastique, c'est un matériau fantastique, mais c'est aussi un matériau qui a une durée de vie extrêmement limitée. Mmh. Il faut savoir que 81% des matériaux en plastique ont une durée de vie inférieure à un an. Et donc ce traité international, c'est une grande première, parce que ce sera un traité juridiquement contraignant qui a pour objectif de rassembler donc toutes les nations unies pour lutter contre la pollution plastique. Nous, au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, nous avons décidé de nous saisir de ce sujet.
Vous avez une vingtaine de préconisations.
Exactement. C'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous, cette pollution plastique. Nous avons formulé 20 préconisations qui s'intéressent au contenu et aux objectifs qu'on peut se fixer dans ce traité, mais aussi à ses conditions d'effectivité. Mmh. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs si ils ne sont pas atteints.
Et lorsqu'on parle des Nations Unies, ça veut dire 20 préconisations pour l'ensemble des acteurs de la planète.
L'ensemble, absolument.
C'est l'idée quand même.
Commence la semaine prochaine la deuxième session de négociation. À Nairobi en 2022, donc les 175 pays des Nations Unies pour l'environnement, du programme des Nations Unies pour l'environnement, avaient voté en faveur de ce traité. Et donc ces pays se retrouvent la semaine prochaine à Paris pour cette deuxième session de négociation pour commencer à élaborer les grandes lignes du traité.
Au BCG, vous travaillez évidemment sur ces sujets. Lionel Arré, est-ce que ça veut dire pour vous les entreprises ont pris conscience? Oui, mais est-ce qu'elles agissent?
Alors la prise de conscience, évidemment, on voit bien que, et heureusement d'ailleurs, c'est beaucoup monté ces derniers temps. C'est particulièrement vrai pour les entreprises qui vont être dépendantes et visiblement du plastique. On peut penser aux fabricants de boissons. C'est retrouver leur marque sur les déchets plastiques qu'on collecte sur les plages du monde entier, c'est évidemment pas souhaitable. Et c'est vrai de toutes les entreprises. Maintenant, c'est un sujet qui est complexe à l'échelle d'une entreprise, parce que évidemment, elles utilisent du plastique pour beaucoup d'entre elles, mais ce ne sont pas forcément elles qui le fabriquent, donc qui agissent sur la manière dont il est construit. Ce ne sont pas elles qui sont en charge de la collecte, du recyclage et du traitement ensuite. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté importante.
Une chaîne de valeur qu'il faut maîtriser.
Et un des sujets en particulier qui aujourd'hui n'est pas résolu, c'est la mesure. De la même manière qu'on a développé au fil des ans un impact carbone pour les entreprises, on n'a pas la même chose pour le plastique. On a au BCG une entreprise qui travaille sur les sujets environnementaux, qui se spécialise un peu là-dessus, définir une empreinte plastique et aider les entreprises à la définir et à la mesurer.
Et du coup, l'un des exemples, c'est les emballages. Sabine Roux-de-Bézieux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces emballages? On voit des grandes entreprises. On a eu dans une session BFM Stratégie L'Oréal qui travaille très en amont pour essayer d'avoir des emballages les plus propres possibles.
Alors, nous, à la Fondation de la mer, on s'intéresse à ce qui a de l'impact. Mmh. Et donc, clairement, les emballages, ça a de l'impact. Pourquoi? Parce qu'ils représentent 40% de l'ensemble de l'utilisation du plastique. Et donc, si on veut lutter contre la pollution plastique, il faut lutter contre les plastiques qui sont plus faciles à supprimer. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les emballages, mais en tout cas, certainement viser de les réduire de façon significative. Et plus largement, se poser la question sur le plastique de tout son cycle de vie. Comment on en utilise moins au tout début? Comment on s'assure de ne pas avoir de pertes en ligne? Je pense par exemple à les pneus qui s'usent, le textile dans ses lavages. Et puis comment on les gère en fin de vie au moment où ils deviennent des déchets. Donc ce qui va être important dans ce traité, Et qui, encore une fois, c'est une préoccupation de la Fondation de la Mer, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux gadgets, mais qu'on travaille sur ce qui a vraiment de l'impact.
Mmh. On le rappelle, on le dit souvent, ça pourrait former un continent entier, hein, tous ces déchets de plastique. Et alors, justement, qu'est-ce qui est le plus efficace? On parle de ramassage, on parle de recyclage. Certains disent, tiens, il faudrait instaurer une consigne aussi pour que les gens s'habituent à ramener même des bouteilles en plastique plutôt que les jeter, alors quand ils le font vraiment dans une poubelle jaune ou d'autres couleurs, parce que selon les collectivités, c'est pas forcément la même couleur. Et alors, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien?
Alors, évidemment, la logique de tri et de collecte, oui, de gestion des déchets, c'est une évidence dans nos pays. Ça l'est pas forcément dans tous les pays du monde. Je pense à la photo qui est derrière vous, Frédéric, qui est assez évocatrice. Donc, ça, c'est évidemment la première étape. Je pense qu'un autre point, c'est de lutter contre les fausses bonnes solutions. Le fameux continent de plastique, certes, il existe, mais il ne se voit pas à l'œil nu. Pourquoi ? Parce que les plastiques, les macro-déchets que l'on voit, ils se dégradent très vite en micro-déchets et en nanoparticules de plastique. Et là, ils flottent entre deux eaux, on peut pas les ramasser. Oui. Donc, au lieu d'aller mettre des centaines de millions de dollars ou des milliards...
Il faut qu'on sorte de l'idée qu'un grand filet, un espèce de grand chalut ramènerait toutes les bouteilles,
oui,
et puis hop, on
aurait plus. Ça peut pas marcher. Ça peut tout simplement pas marcher. Éventuellement aux embouchures, aux estuaires de certains fleuves, mais je dis bien éventuellement. Donc l'enjeu, c'est de travailler en amont. Et toutes les solutions d'apprentissage sorcier sont dangereuses. Il y a des projets là pour une bactérie qui va manger le plastique. Mais une fois qu'elle aura fini de manger le plastique, qu'est-ce qu'elle va manger, cette bactérie? Donc il faut repenser le plastique comme matériau fantastique, qui n'est pas si fantastique que ça, mais qui a des impacts systémiques et sur lequel il faut agir avec la stratégie 3R. La stratégie 3R, c'est réduire, réutiliser, recycler.
Oui. Et puis parce que interdire, ça risque d'être compliqué, Lionel.
Oui, et en particulier, je voudrais rebondir aussi sur le recyclage, hein, parce que on présente souvent le recyclage comme la solution miracle qui va résoudre le problème. Au fond,
mais il faut le ramasser déjà.
On peut utiliser autant de plastique qu'on veut puisque on saura le recycler. 100% recyclable, 100% recyclé. Il faut avoir en tête, et peut-être contrairement aux idées préconçues, c'est très difficile le recyclage du plastique. Il y a même des plastiques qui ne sont pas du tout recyclables. Ouais. C'est impossible.
Il faut le nettoyer. Enfin,
voilà, il faut le trier. Comme vous le disiez, déjà pour le recycler, il faut le collecter. Mm-hmm. Il y a des filières de collecte. Alors aujourd'hui, on s'est habitué dans des pays comme la France sur les bouteilles en plastique, des choses comme ça. Il y a des filières de collecte qui n'existent simplement pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait des jouets en plastique? Qu'est-ce qu'on fait des plastiques souples, etc. Donc le recyclage fait partie de la solution, mais le recyclage en aucun cas ne va nous dispenser de la réflexion plus globale de il faut qu'on en utilise moins, parce que on n'aura pas de baguette magique qui va retransformer le plastique à l'infini en plastique neuf.
Donc c'est là. Donc l'importance de la recherche, de la science pour travailler autour de tout ça. Alors on l'a compris, pas de solution miracle, Sabine Roux-de-Bézieux. Est-ce que ça veut dire que il va falloir mettre en place comme ça toute une série de solutions alternatives? Alors quand on peut, oui, c'est cette espèce de gros chalut pour ramasser les bouteilles quand on les voit, mais après derrière c'est filtrer l'eau, c'est peut-être à certains endroits cette bactérie. C'est un peu ça l'idée?
Alors malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas une seule qui va être applicable pour tous les secteurs. Le plastique a envahi absolument toute notre vie quotidienne. Et donc, pour chacun des secteurs, il y aura une solution différente. Et la solution différente, elle doit être pensée sur l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire comment on utilise moins de plastique, comment on s'assure de ne pas avoir de fuite de plastique dans le cours de son usage, et puis comment on le traite en fin de vie. Et pour le traiter en fin de vie, il faut avoir pensé dès le début que le plastique va être traité en fin de vie. Le deuxième point qui est important, c'est de s'assurer qu'il va être réutilisé. Donc la question de consigne ou de concevoir dans l'usage des produits sa réutilisation. Et puis, il y a l'innovation. L'innovation pour trouver des substituts au plastique ou pour trouver des plastiques qui sont plus facilement recyclables. Nous, on a un réseau à la Fondation de la Mer de quasiment 300 associations de terrain sur tout le territoire. On leur a posé la question, quelles sont pour vous les méthodes pour lutter contre la pollution plastique et est-ce que l'innovation est une bonne solution? Eh bien, 84% d'entre elles pensent que l'innovation sera une solution ou leur permettra de lutter contre la pollution plastique.
Une innovation qui nécessite des milliards et des milliards d'euros d'investissement ou alors, on est sur des choses quand même assez raisonnables?
Alors, ça dépend pourquoi. Hein. Si c'est pour avoir, par exemple, un recyclage chimique, et je crois que l'usine coûte 100 millions d'euros. Ouais. Mais si c'est pour diminuer une quantité d'emballage, finalement, tout le monde va y gagner. L'environnement et l'industriel, parce qu'il aura moins de plastique dans son produit final.
En fait, Lionel, ce qu'il faut, c'est revaloriser un peu, c'est rechercher la manière existante, quoi, la matière existante.
Oui, et puis, comme disait Sabine, je pense que les solutions, elles ne peuvent se concevoir que de bout en bout, donc c'est la fameuse éco-conception, qu'aujourd'hui, on a assez largement ratée, parce qu'on a découvert les problèmes plastiques qu'au fur et à mesure de sa mise en marché. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette conscience-là, c'est que quand on réfléchit dans les labos, dans les start-up, dans les endroits où les grandes entreprises
font la recherche, qu'il faut mettre ça en place sur le terrain,
il faut réfléchir à tout ce qui va se passer derrière. Bon, mais encore une fois, la somme de toutes ces petites solutions, petites ou grandes, que ce soit le recyclage, que ce soit la diminution des usages, c'est ça qui permet d'arriver au but qu'on recherche, hein, qui est qu'on ait moins de pollution plastique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'utilisera plus de plastique, parce qu'il est très difficile à
substituer. Mieux, on le recyclera mieux, on le passera mieux, etc. Alors, ce traité, donc la création de ce traité, c'est l'horizon 2024. Le G7, il parle de 2040, où on va éliminer toute nouvelle pollution plastique. On va y arriver, ça, ou...
Alors, je pense qu'il faut se fixer un objectif ambitieux. Ouais. C'est comme pour les 2 degrés pour le climat. Ouais. Enfin, j'espère que c'est pas ambitieux, j'espère que c'est atteignable, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour la pollution plastique, il faut se fixer un objectif ambitieux. Et zéro pollution plastique en 2040, en tout cas, zéro nouvelle qui rentre dans l'environnement, ça me semble l'ambition à se fixer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a indiqué au CESE. Maintenant, le G7, ce sont que les 7 économies de la planète. Il faudrait déjà...
Les plus puissantes qui ont déjà
s'assurer d'avoir le G20, et puis les autres pays. Pourquoi c'est un problème ? Parce que la hausse de consommation de plastique est supérieure à la hausse du PIB. Donc plus une économie se développe, plus elle utilise de façon exponentielle du plastique. Ça pourrait ne pas être un problème si tout était bien géré. Mais c'est un gros problème parce que les pays qui aujourd'hui sont les plus consommateurs de plastique savent à peu près le gérer. Mais les pays qui sont moins consommateurs mais qui ont des populations très importantes ne savent pas gérer leur plastique. Donc s'ils se mettent à consommer du plastique comme nous le faisons en Europe ou aux États-Unis et qui ne sont toujours pas capables de le gérer, vous imaginez ce que ça va représenter comme pollution plastique. Il faut savoir que sur le 90% de la pollution plastique qu'on trouve dans l'océan vient de 10 fleuves. Et sur ces 10 fleuves, il y en a 8 en Asie. Et ce sont justement les pays qui ne savent pas gérer leur pollution plastique. Donc il va falloir trouver des mécanismes pour embringuer ces pays, les embarquer, pour qu'ils ne rattrapent pas la consommation plastique que nous avons, pour pouvoir tout de même mettre en place des solutions de traitement, sensibiliser les populations, etc.
À travers les 3 R que vous disiez.
Les fameux 3 R.
Donc, ramasser, recycler.
Réduire, réutiliser, recycler.
Recycler, voilà.
Et tout ça avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est vraiment le maître mot du pragmatisme, multiplicité de solutions. Il n'y en a pas une seule miracle.
Et ça démarre au quotidien, vous aussi, chez vous, quand vous allez en vacances, justement, dans tous ces pays. Merci à tous les deux. Sabine Roux-de-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer et co-rapporteuse donc, pour le traité contre la pollution plastique auprès du CESE. Et Lionel Arré, directeur associé senior au BCG. Et on va bien entendu suivre cette deuxième session de discussion qui aura lieu à Paris. C'est ça, sur le traité international contre la pollution plastique. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.